pas si réticent à offrir un cadeau à ton épouse ou à tes enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies promis, et ça c'est très grave, et ça existe, que tu aies promis à ton épouse la dot et que tu refuses de lui donner. Il est très grave que tu prennes sans son consentement l'argent de ton épouse alors que c'est son argent personnel. Il est grave que tu dépenses de l'argent pour ta famille, pour tes frères et sœurs, et que tu oublies sa belle famille. C'est injuste. C'est injuste que toi tu passes des vacances pour aller voir ta famille et que tu refuses, sauf de temps en temps, de payer le voyage pour que ton épouse aille voir sa famille à elle. Quelle injustice! Et après on s'étonne pourquoi il y a des problèmes. Parce que tu as pensé à toi. Et elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Elle sait que tu as été égoïste. Et donc elle te le rend, elle te rend l'appareil. Et toi ma sœur, il n'est pas normal que tu sois aussi matérialiste et que tu es toujours en train de te comparer avec le niveau de vie de tes amis avec un E. Alors que Dieu a dit « La tamuddayna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati dunya linafsinahum fih » Ne porte pas un regard intéressé, un regard insistant, cupide, envers toutes ces jouissances que je leur ai données, des jouissances éphémères, l'apparat de cette vie terrestre, afin de les éprouver. Pourquoi les maris se plaignent-ils que leurs épouses ne sont jamais satisfaites au niveau matériel, alors qu'elles ont ce qui peut satisfaire leurs besoins essentiels, mais qu'elles recherchent toujours plus de confort, toujours plus de luxe, et elles tombent dans le piège de la société de consommation, et ça crée des problèmes, alors que peut-être le mari économise pour des projets plus intéressants. Pourquoi, ma sœur, ton mari a accepté, vous vous êtes entendu, à ce que tu puisses exercer une profession. Et évidemment, quand les deux travaillent, ça a des répercussions sur les enfants, mais aussi le mari sur son confort personnel, car évidemment, avoir une femme au foyer, c'est un confort pour un mari, car il rentre et il a une femme reposée, une femme qui a peut-être préparé un repas pour l'accueillir, qui s'est faite belle. Et quand les deux travaillent, évidemment, ce genre de choses, ce n'est pas le quotidien. Donc finalement, ton mari a fait un sacrifice pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses avoir de l'argent, ou que tu puisses l'aider. Alors pourquoi lui rendre cette faveur par des problèmes? Ce n'est pas normal. Pourquoi, mon frère, tu t'es payé une umra, un hajj, et tu ne penses pas à ton épouse? Car elle est au même titre concernée par ce genre d'adoration. Pourquoi, cette fois-ci, dans le domaine du respect, non plus de l'argent, pourquoi à un moment donné, le mari ou la femme finit par insulter, finit par humilier l'autre, finit par parler sur son dos, par révéler ses défauts, par se plaindre à tout le monde? Pourquoi à un moment donné on ne respecte plus la valeur de son conjoint? Comment ça se fait? Pourquoi de la violence verbale et parfois physique? Quand tu es parti l'épouser, quand toi ma sœur, tu as décidé de vivre avec, est-ce que tu l'avais mis au courant que tu allais être violente, irrespectueuse? Pas du tout. Ou sinon, il ne vivrait pas avec toi aujourd'hui. Mais donc tu l'as trahi. Si tu t'es transformée en une femme irrespectueuse de son mari, et toi, mon frère, en un mari irrespectueux de sa femme, vous avez trahi votre serment. Et c'est quelque chose de très grave. Ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il décrit les qualités des croyants dans Sourate Al-Mu'minun, revenez-y, les premiers versets, qu'est-ce qu'il dit ? وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Et ceux qui tiennent leur engagement quand ils les ont pris. Pourquoi Allah a-t-il qualifié le contrat de mariage d'un contrat solennel, un contrat lourd de conséquences, مِيثَاقًا غَلِيظًا ? C'est parce que cette promesse que tu as faite, que tu as fait, tu dois la remplir. Quant à l'affection, combien d'épouses se plaignent que les maris ne les calculent pas, ne leur donnent aucune importance, qu'ils vont vers elles que quand c'est leur intérêt personnel, qu'ils les considèrent comme des objets, comme un moyen d'assouvir leurs penchants, leurs désirs. N'est-ce pas un être humain ? N'est-ce pas une femme ? Pourquoi ce comportement ? Pourquoi penser à soi ? Pourquoi ne pas se mettre à la place de l'autre ? Pourquoi autant de femmes se plaignent de l'absence du mari, physique ou dans la maison, il est ailleurs ? Quand il rentre, aucune marque d'affection, aucun dialogue, mais c'est tout de suite la détente, le confort ou le sommeil. Est-ce qu'une femme qui est restée à la maison toute la journée est heureuse quand elle reçoit un mari absent ? Pas du tout. Pourquoi on a été si romantique durant les premiers mois ou les premières années de mariage ? Quand c'était le coup de foudre, et qu'avec le temps, il n'y a plus de cadeaux, de voyages, de compliments, de textos, de mails. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié le mérite et aussi l'engagement qu'on avait pris. Pourquoi autant de femmes se plaignent que leur mari ne les écoute pas ? Qu'ils n'ont pas une oreille attentive à leurs problèmes, à leurs besoins ? Pourquoi autant de femmes se plaignent que le mari a mis ses amis ou sa famille, au sens large du terme, au-dessus d'elle et qu'elle se sent lésée, frustrée, alors qu'au départ, ce n'était pas ce qu'il lui avait promis ? Pourquoi autant de frères se plaignent que leurs épouses ne leur accordent aucun respect, qu'ils ne les soutiennent pas dans leurs responsabilités professionnelles ou financières ou familiales. Pourquoi ? Alors que tu as promis en te mariant que tu allais le chérir, que tu allais l'accompagner. Pourquoi autant de maris se plaignent que leurs épouses leur manquent de respect et qu'ils leur font savoir que tu ne me sers à rien. T'es pas un homme. Je peux vivre ma vie tout seul. Ou alors, on compare son mari à d'autres hommes. Est-ce que c'est ça le respect ? Est-ce que ton mari n'a pas une corde sensible qui s'appelle sa fierté ? Pourquoi ? Dans le domaine spirituel et religieux, il n'y a pas une entraide entre le mari et sa femme. Toi, tu viens à la mosquée, c'est une grande chance, tu assistes à des conférences, tu apprends, tu évolues spirituellement et tu ne penses pas à ta femme, tu ne penses pas à tes enfants. Comment ça se fait ? Tu dois vouloir pour elle ce que tu veux pour toi. Et après, on se plaint quand on n'a plus les mêmes repères. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pensé qu'à toi. Tu n'as pas pensé à elle. Pourquoi autant de femmes se plaignent-elles d'être seules à éduquer leurs enfants, à s'occuper de la maison, des enfants, du mari, et elles se sentent délaissées, abandonnées ? Comment ça se fait ? Le problème de fond, comme on l'a dit, c'est que on a oublié le fadl, c'est-à-dire le mérite, qu'avait cette personne, qu'elle avait à nos yeux au début. On a également oublié le contrat moral, religieux que nous avions mis en place avec sa famille, avec elle. Et également, à un moment donné, on est revenu vers notre nature humaine égoïste. On n'a pas fait d'effort. Alors que le prophète A.S.A.T.O.S.A.L.A.M. a dit « Vous n'atteindrez la véritable foi que si vous aimez pour autrui, pour votre prochain, ce que vous aimez pour vous-même. » Mais ce hadith, on l'utilise généralement que pour la fraternité au sens général, la charité ou bien les étrangers. Et on oublie que ce hadith, il concerne d'abord la vie de couple. En priorité, je dois vouloir pour mon époux ce que je veux pour moi-même. Elle doit vouloir pour moi ce qu'elle veut pour elle. Et si on était dans cette démarche, dans cet élan de solidarité, dans cette démarche de sacrifice, beaucoup de problèmes auraient été évités et beaucoup de problèmes seraient réglés. Vous savez, ce thème, ce sujet, c'était juste une introduction. Ce qu'on fera par la suite, peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est les vacances et on a un autre public, un public jeune, et qui ne sont pas directement concernés par la vie de couple, mais par la suite, on traitera ce thème-là, la vie de couple, mais en prenant comme exemple concret notre prophète bien-aimé et également ses épouses. Et je m'adresserai autant à l'homme qu'à la femme. Autant à l'homme qu'à la femme. Parce qu'on a dans notre prophète un exemple pour nous, les maris, et les femmes ont un exemple dans les mères des croyants en tant qu'épouses. Avant de faire des invocations pour la maman d'un frère qui est malade et pour tous les malades, nous avons un séminaire, le deuxième séminaire de l'année organisé par le Pôle à la découverte de l'islam, qui se tiendra dimanche, ici à la mosquée, dans la salle numéro 5, après le Isha, 18h30. Le thème, ça sera le sens des priorités dans l'adoration et la prédication. Vous êtes les bienvenus, Inch'Allah. Il y a une salle où il y a une trentaine de places. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde non plus. Mais vous êtes tous les bienvenus, Inch'Allah, pour assister. La semaine prochaine, vendredi prochain, c'est un vendredi de vacances, et celui d'après également, l'association Agir vous proposera une vente de café, de boissons et de gâteaux pour financer les activités des enfants pendant les vacances. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa tiba'a sunnatih. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوبنا بارك لنا في مسجدنا بارك لنا في صحتنا بارك لنا في أحوالنا اللهم من سألنا الدعاء فإن نسأل لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم والدينا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai oublié une information importante. Demain samedi, nous recevons Hamza Guérouche, sociologue, pour la conférence du mois. Ramenez vos enfants, très important, parce que c'est un sujet qui concerne les ados, les jeunes et les médias, Internet, Facebook, etc. Après le Isha, vous êtes les bienvenus.